écoutez RFI, il est 6h, à Paris 5h en temps universel.
RFI Matin.
RFI Matin, ça commence avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Marion et bonjour à tous.
À la une, 5e soirée de mobilisation contre l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu en Turquie.
Et des dizaines de milliers de manifestants à Istanbul, des millions de votants qui ont participé à la primaire symbolique organisée par son parti, le CHP, pour le désigner candidat à la prochaine présidentielle. Reportage à Istanbul dans ce journal. Une frappe israélienne de plus sur un hôpital de Gaza. Elle a tué hier un responsable du bureau politique du Hamas, mais aussi un adolescent de 16 ans. Du personnel médical a été blessé. C'était il y a un an la large élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Un an plus tard, RFI dresse un premier bilan de l'action du président dans un contexte budgétaire difficile. Des élections législatives anticipées annoncées pour fin avril au Canada, et puis la vague d'indignation ne retombe pas en France après l'agression d'un rabbin ce week-end accompagné de son fils en pleine rue à Orléans. Le suspect est âgé de 16 ans.
En Turquie, de nouveau une forêt de drapeaux hier soir sur la place de la mairie d'Istanbul.
Avec hier soir des visages plus sombres dans la foule, puisque le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été suspendu de ses fonctions, incarcéré hier, malgré des manifestations continues depuis mercredi dernier. Ekrem İmamoğlu accusé de corruption à 3 ans de la prochaine présidentielle. Et alors que son parti, le CHP, organisait hier une primaire pour le désigner comme son candidat pour 2028, notre correspondante Anand Lower a suivi la soirée de mobilisation à Istanbul.
Her şey çok güzel olacak. Tout ira très bien. Depuis son élection en 2019, c'est le cri de ralliement des partisans d'Ekrem İmamoğlu. Au soir de son incarcération, ils sont encore des dizaines de milliers à le crier devant la mairie. Un cri d'espoir, et pourtant, Merve, une jeune femme aux cheveux violets, n'a pas le moral.
Je n'ai pas d'espoir, car nous sommes face à une décision profondément illégale. La Turquie court vers la dictature. C'est le visage de notre pays qu'Erdogan donne au monde actuellement. C'est une raison de plus pour moi d'être en colère contre lui.
Our, un étudiant qui cache son visage sous une écharpe et des lunettes noires, refuse au contraire de se laisser abattre.
Tant que nous restons unis, personne ne peut nous briser. Ce que l'opposition doit faire, c'est ne surtout pas laisser tomber Ekrem İmamoğlu, comme elle a laissé tomber d'autres figures de l'opposition emprisonnées avant lui. Si on ne le lâche pas, tôt ou tard, le gouvernement démissionnera.
Mutlu Yıldırım est vice-président de la branche jeunesse du CHP à Istanbul, le parti d'Ekrem İmamoğlu. Pour lui, il n'y a pas 36 solutions.
Tant que notre voix n'aura pas été entendue, tant que nous n'aurons pas récupéré nos droits, nous n'irons nulle part. Nous serons ici tous les soirs et nous finirons par ramener notre président Ekrem à la mairie.
Le pouvoir, lui, espère sans doute que la colère va retomber, que son opposition finira par se diviser devant la mairie d'Istanbul, sous le portrait géant d'Ekrem İmamoğlu. Ils se sont promis le contraire. Anand Lower, Istanbul, RFI.
Et la primaire organisée par le CHP hier avait été élargie à toute la population. Selon le parti, 15 millions de votants, dont 13 millions extérieurs au parti, ont désigné Ekrem İmamoğlu pour être le candidat du CHP à la prochaine présidentielle. Et puis à noter la réaction de la France hier. L'incarcération d'Ekrem İmamoğlu est une atteinte grave à la démocratie. Réaction du ministère français des Affaires étrangères.
L'hôpital Nasser de Khan Younes à Gaza, visé par une frappe israélienne hier.
Et c'est en dessus de l'enclave palestinienne. Un membre du bureau politique du Hamas a été tué, un adolescent également. Il était soigné à l'hôpital Nasser. Du personnel médical a été blessé à des degrés divers selon le Hamas. L'armée israélienne a pour sa part dit avoir mené une frappe de précision sur un terroriste clé du Hamas qui opérait au sein du complexe hospitalier. Fin de citation. Le sud de Gaza, où un ordre d'évacuation à Rafah hier a semé littéralement la panique dans la population. Résultat, des colonnes humaines de nouveau forcées à reprendre la route. Récit de cette journée à Ramallah avec Amira Souilem.
Où aller ? La question revient sans cesse dans la bouche des Gazaouis. Certains disent avoir été déplacés parfois plus de 10 fois depuis le début de la guerre. Familles, vieillards, enfants, personnes parfois seules qui titubent, les images que nous recevons de Gaza donnent à voir un exode massif après l'ordre d'évacuer un quartier de Rafah, donné hier matin par l'armée israélienne. Partis dans la précipitation, certains ont eu le temps de prendre quelques effets personnels, d'autres disent ne même plus avoir de tente. On attend la mort, rien d'autre, nous confie un Gazaoui joint par téléphone. Un autre envoie des enregistrements de tirs qu'il entend depuis chez lui. Mêlé à des rires d'enfants du quartier et au chant des oiseaux, il témoigne d'une vie qui se fait au rythme d'une guerre qui n'en finit pas. Ce père de famille confie qu'il va quitter son appartement miraculeusement rescapé des bombardements pour se réfugier dans une parcelle en bord de mer. Lui qui s'y refusait catégoriquement a dû plier sous la pression de ses trois enfants qui craignent pour leur jour. Alors que la guerre s'intensifie, Gaza reste soumis au blocus des camions humanitaires. Depuis 3 semaines, ni nourriture, ni médicaments, ni carburant n'entrent dans cette enclave plus que jamais coupée du monde. Amira Suilem, Ramallah. RFI.
En Israël, à présent, sans surprise, le gouvernement a voté hier la motion de défiance contre la procureure de l'État. Première étape d'une procédure de destitution inédite voulue par l'exécutif, selon un communiqué du ministre de la Justice. À Riyad, en Arabie Saoudite, Ukrainiens et Américains ont tenu hier de nouvelles discussions indirectes en vue d'une trêve partielle dans la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les Américains doivent s'entretenir avec une délégation russe. Nous serons en Ukraine dans le prochain journal.
RFI à Dakar, 92 FM.
C'était il y a un an, un tournant historique pour le Sénégal.
Et le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye, candidat d'opposition, était plébiscité dans les urnes au Sénégal. Élu avec 54% des voix face à Amadou Ba, élu sur la promesse d'une rupture systémique, celle de construire un Sénégal nouveau après 12 ans de pouvoir de Macky Sall. Alors un an plus tard, qu'en est-il ? Élément de réponse ce matin à Dakar avec Léa Lisa Westerhoff.
Élu avec la promesse de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, la nouvelle équipe au pouvoir a très vite lancé une série d'audits. Même si certains, comme ceux sur les contrats miniers et pétroliers, tardent à donner des résultats, l'audit des finances publiques sur les 5 dernières années représente un marqueur de la bonne gouvernance et un symbole de la transparence revendiquée par les nouvelles autorités. Dans la même veine, 2 institutions jugées trop budgétivores ont également été supprimées. Des assises de la justice avec la société civile ont été organisées dans une démarche qui se veut participative. Mais un an après être arrivé au pouvoir, les analystes pointent aussi une certaine lenteur dans les prises de décision du gouvernement. Les recommandations des assises de la justice, par exemple, n'ont pas encore été appliquées. Après 12 mois au pouvoir, le duo Diomaye Sonko fait donc face à des critiques d'impuissance, face à des comptes publics dégradés, hérités de l'administration précédente. Avec une dette qui s'élève à près de 100% du PIB, les nouvelles autorités disposent pour l'heure d'une marge de manœuvre extrêmement limitée pour imprimer la rupture promise lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
En République démocratique du Congo, à présent, début prévu aujourd'hui des consultations initiées par Félix Tshisekedi en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour faire face aux défis, notamment sécuritaires dans l'est du pays, des consultations boycottées par les principales formations d'opposition qui priorisent les consultations initiées depuis le mois dernier par les évêques catholiques et les pasteurs protestants.
Au Canada, il n'aura pas perdu de temps.
Et le nouveau Premier ministre a convoqué hier des élections anticipées 9 jours après sa nomination. Marc Carné mise sur une campagne éclair pour conserver son poste dans le contexte des tensions commerciales croissantes avec les États-Unis. Correspondance Nafia Libert.
Les pancartes se dressent, les visages des candidats envahissent petit à petit les rues de Montréal. Les militants et les bénévoles s'activent pour afficher les couleurs de leur parti. Chaque minute compte, les candidats ont seulement 36 jours pour séduire les électeurs. Si l'effervescence électorale gagne toutes les formations politiques, c'est le face-à-face entre les libéraux de Mark Carney et les conservateurs de Pierre Poilievre qui retient l'attention. Les deux hommes se présentent comme les seuls capables de défendre le Canada face à Donald Trump, alors que les tensions avec les États-Unis s'imposent comme le thème central de cette campagne. Mark Carney appelle les Canadiens à lui accorder un mandat fort, une majorité claire qui lui permette de lutter contre Donald Trump. Pierre Poilievre, lui, se veut comme l'incarnation du réel changement dont le Canada a besoin après les 3 mandats consécutifs des libéraux à Ottawa.
Mettons le Canada d'abord pour faire changement. Avec un nouveau gouvernement conservateur.
La lutte s'annonce serrée avec un écart réduit entre ces 2 grands partis en ce début de campagne. Et ce duel entre libéraux et conservateurs pourrait laisser peu de place aux autres formations comme le Nouveau Parti démocratique ou le Bloc québécois qui devront redoubler d'efforts pour maintenir leur influence au Parlement. Nafia Libert, Montréal, RFI.
RFI 6h10, à Paris en France, l'indignation après l'agression d'un rabbin samedi dans les rues de la ville d'Orléans.
Il a été violemment pris à partie par un jeune qui lui a asséné plusieurs coups alors qu'il sortait de la synagogue avec son fils. Un mineur de 16 ans est en garde à vue depuis samedi soir, soupçonné d'être à l'origine de l'agression. Un acte dénoncé par Yonatan Arfi, président du conseil représentatif des institutions juives de France. L'âge de l'agresseur présumé illustre selon lui la progression de l'antisémitisme chez les plus jeunes.
Nous avons des remontées d'incidents antisémites très nombreuses qui surviennent au sein de l'école de la République. Des élèves juifs sont pris à partie, sont parfois agressés ou harcelés, mais le plus souvent, c'est un mur insidieux, silencieux de rejet social. Une statistique peut-être pour illustrer cela, 16% des collégiens et des lycéens en France refusent d'être amis avec un élève parce qu'il est juif. C'est ça la réalité aujourd'hui de l'antisémitisme dans notre pays. Ce sont des chiffres que nous avons publiés il y a une dizaine de jours avec l'IFOP, dans le cadre d'une étude sur l'antisémitisme à l'école. Face à ça, la réponse elle est assez simple. Beaucoup d'élèves cachent leur identité juive quand ils le peuvent. Et puis d'autres, malheureusement, sont parfois réduits à devoir quitter l'école publique pour trouver une place en école privée confessionnelle pour se protéger de ce climat délétère.
Et Yonatan Arfi, joint par Rebecca Arondel. Viendra-t-il ou non au tribunal après un renvoi de son procès à l'automne? Gérard Depardieu est jugé aujourd'hui à Paris, accusé d'agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage. L'audience doit débuter en début d'après-midi et se poursuivre au moins demain devant le tribunal correctionnel. Du football à présent, avec la France qui a renversé hier la Croatie au bout du suspense. Elle se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Nations. 2-0 pour les Bleus à l'issue du temps réglementaire et victoire finale au tir au but. La France affrontera l'Espagne le 5 juin prochain. L'autre demi-finale opposera l'Allemagne au Portugal.
On termine en musique. Jeanne, il n'a pas encore 30 ans et vient de sortir son troisième album studio.
C'est Tamino, le nom de scène d'un jeune auteur-compositeur belge, souvent comparé à Leonard Cohen ou Jeff Buckley. Sophie Torlotin.
Every Dawn is a Mountain, c'est le titre d'un troisième album à l'ambiance lyrique et quasi religieuse. Adepte d'une philosophie du lâcher-prise, Tamino explore un registre folk dépouillé où brille sa voix capable de couvrir plusieurs octaves. Influencé par le folk américain, le chanteur belge de 28 ans a composé et enregistré ce nouvel album à New York, où il vit depuis un an et demi.
New York me fait penser à cette citation de Naguib Mahfouz. La maison n'est pas l'endroit où vous êtes né, la maison est l'endroit où cessent toutes vos tentatives d'évasion.
Tamino cite le grand auteur égyptien Naguib Mahfouz, lui-même a des origines égyptiennes. Son grand-père paternel était le grand acteur et chanteur Mouharram Fouad. Sur cet album et sur scène, ce multi-instrumentiste s'accompagne avec l'ancêtre de la guitare, le oud, mais peut aussi chanter en duo, ici avec Mitski, sur le beau titre Sanctuary.
Tamino et son dernier album Every Down the Mountain que nous présentait donc ce matin Sophie Torlotin.
Merci Jeanne Bartoli, c'est aussi notre choix musical. Sophie Torlotin, il revient en parler un peu avant 8h temps universel. Il est 6h13 à Paris, 5h13 en temps universel. Bienvenue dans RFI Matin, 3 heures d'infos avec nos invités, nos reportages, nos chroniques. On parlera de ces pourparlers russo-américains aujourd'hui à Riyad en Arabie Saoudite, après des discussions entre Américains et Ukrainiens. Sur la table, une éventuelle trêve qui, pour Kiev, doit comprendre des libérations de prisonniers de guerre. L'un d'entre eux, un soldat ukrainien relâché en juin, raconte pour RFI les violences qu'il a subies dans les prisons russes.
Là, on pouvait se faire tabasser pour n'importe quelle raison. On devait tout le temps être plié en deux quand on se déplaçait, et les gardes portaient toujours des masques. Dans les douches, ils utilisaient des tasers électriques, sur nos corps mouillés, n'importe où. Les parties génitales, l'arrière du crâne, partout.
On sera à Beyrouth dans l'appel correspondant. On reviendra sur cette escalade dans le sud du Liban. Israël a riposté ce week-end à des tirs de roquettes. Voilà un an que Bassirou Diomaye Faye est au pouvoir au Sénégal. On fait le bilan de ce début de mandat avec Aïb Dafé, le secrétaire général de son parti, le PASTEF. Il déplore le marasme budgétaire laissé par le gouvernement sortant.
Il y a un désastre budgétaire, il y a un désastre financier. Par exemple, on nous a révélé qu'il y a plus de 2500 milliards de francs CFA qui a été emprunté auprès des banques. L'Assemblée nationale n'a jamais été informée. Donc cette dette cachée et beaucoup d'autres irrégularités qui vraiment sont aux antipodes de la bonne gouvernance.
Et on en parlera aussi dans la chronique aujourd'hui, l'économie. Et puis l'Afrique du Sud limite la pêche au hareng, ce qui devrait renflouer le garde-manger des manchots du Cap menacés d'extinction. On en parle dans quelques minutes dans la question d'environnement. RFI Matin, voilà le programme. Bienvenue si vous nous rejoignez. On commence notre tour du monde de l'info en Thaïlande, où la première ministre est menacée de destitution. C'est à la une en Asie. Les députés débattent en ce moment sur une motion de censure visant Pettonthan Shinawat. On en parle ce matin avec notre correspondant à Bangkok, Valentin Sébron. Bonjour Valentin.
Bonjour, bonjour à tous.
Valentin, pourquoi cette motion de censure contre la première ministre thaïlandaise ?
Le Parti du Peuple a déposé cette motion de censure le mois dernier, car il accuse la première ministre Pettonthan Shinawat d'incompétence. D'abord sur le volet économique, le principal parti d'opposition dénonce une mauvaise gestion de l'économie thaïlandaise qui est en perte de vitesse, avec actuellement l'une des croissances parmi les plus faibles d'Asie du Sud-Est. Ensuite, sur la question des droits humains, le Parti du Peuple estime que sous l'actuel gouvernement, la réputation mondiale de la Thaïlande a été ternie à cause de plusieurs violations en la matière. Dernière en date, la déportation de 40 Ouïghours en Chine. Et puis enfin et surtout, l'opposition accuse Pettonthan Shinawat de faire passer les intérêts de sa famille au détriment du peuple thaïlandais, en creux de laisser son père Thaksin Shinawat tirer les ficelles du pouvoir.
Le milliardaire controversé Thaksin Shinawat, premier ministre de 2001 à 2006, semble toujours exercer une influence politique considérable, Valentin.
Oui, c'est un secret de polichinelle. Ici en Thaïlande, Thaksin a la main sur le POTAI, le parti au pouvoir dirigé par sa fille qu'il a lui-même fondée. Souvenez-vous, en 2023, juste après les élections, il était rentré au pays. Et après 15 années d'exil pour échapper à plusieurs condamnations pour corruption, et après 6 mois en détention, sa longue peine de prison avait été effacée. Le retour de Thaksin n'a été possible que grâce à l'alliance contre nature entre son parti POTAI et les militaires, ses ennemis d'hier qu'il avait chassés au pouvoir des années plus tôt. Depuis, le patriarche multiplie les meetings, s'affiche en leader, alors que le POTAI s'est assis sur ses promesses électorales, dont la réforme de l'armée, acteur incontournable de la vie politique thaïlandaise, un sujet qui sera sûrement abordé durant les débats.
Alors justement, à quoi doit-on s'attendre à l'issue de ces débats à l'Assemblée ?
Alors au total, l'opposition a 28 heures pour interroger la Première ministre. Elle et sa coalition gouvernementale ont 7 heures pour répondre aux questions. Le vote de défiance aura ensuite lieu mercredi, mais il est peu probable que la motion de censure soit adoptée par l'Assemblée, où le gouvernement de coalition dirigé par Pettonthan Shinawat dispose d'une confortable majorité. Pour les observateurs, le détail du vote pourrait néanmoins dévoiler des signes de divisions internes. Surtout, c'est l'occasion pour l'opposition, de marquer des points auprès du grand public, à l'heure où la plupart des Thaïlandais sont, selon un sondage, mécontents de l'actuel gouvernement et en faveur de cette motion censure.
À la une en Asie avec Valentin Sébron en direct de Bangkok pour RFI. 6h18 à Paris, dans un peu plus d'une heure sur RFI, le grand invité international ce matin, Arnaud Pontus, vous recevez la journaliste et écrivaine ukrainienne Marina Koumeda.
Oui, alors qu'une éventuelle trêve partielle en Ukraine se discute à Riyad, en Arabie Saoudite, elle nous dira quel est l'état d'esprit des Ukrainiens. Les négociateurs américains ont rencontré ce dimanche soir des responsables ukrainiens jusqu'à tard. Ce lundi, ils vont poursuivre avec les Russes. L'Ukraine, on le sait, se dit prête à un cessez-le-feu général et sans condition. La Russie ne parle pour l'heure que d'un moratoire sur les bombardements des infrastructures énergétiques. En attendant une éventuelle pause, la guerre continue. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a de nouveau frappé Kiev, Kharkiv et Zaporijja. Alors comment les Ukrainiens vivent-ils ces négociations ? Qu'espèrent-ils après plus de 3 ans de guerre ? À quoi ressemble encore aujourd'hui leur quotidien ? On va poser ces questions à Marina Koumeda qui sera avec nous en direct de Kiev. Il y a quelques mois, elle a publié le journal d'une Ukrainienne aux éditions de l'Aube. Elle revient tout juste de Soumy, c'est sa région natale, c'est dans le nord-est de l'Ukraine, tout près de la frontière russe. Et là, l'inquiétude est très forte. À tout à l'heure.
Entretien à partir de 6h20 temps universel. En France, l'ouverture du procès aujourd'hui de Gérard Depardieu. L'acteur est accusé par deux femmes d'agression sexuelle en 2021 sur le tournage du film Les Volets Verts, un procès emblématique de la vague MeToo dans le milieu du cinéma. Le 7e art poursuit une lente remise en question sur le sujet. Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale s'en est emparée et des propositions se dessinent pour faire évoluer le cadre législatif. Le reportage France de Baptiste Coulon.
Ce fut l'un des temps forts des auditions menées par la commission. Le témoignage de l'actrice Sarah Forestier qui accuse son partenaire de jeu Nicolas Duvauchel de l'avoir giflé sur un tournage en 2017.
Et en fait, on essaye de m'empêcher d'aller au commissariat. L'équipe panique, quoi. Ils savent pas gérer ce genre de situation. À ce moment-là, il y a qu'une seule chose qui prend toute la place, c'est la peur. Par rapport à l'argent, par rapport aux assurances. Et donc, en fait, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on met la poussière sous le tapis et la victime doit encaisser.
L'actrice a depuis déposé plainte, l'acteur, lui, nie les faits. Comédien, réalisateur ou producteur, durant 6 mois, ils ont été plus d'une centaine à être auditionnés par la commission d'enquête. Sa présidente, la députée écologiste Sandrine Rousseau, dresse un bilan contrasté.
Il y a quelque chose entre le vécu des personnes victimes, qui relatent des faits récurrents, et de l'autre côté, un monde du cinéma qui comprend l'enjeu, mais qui reste encore assez aveugle à la réalité des vécus des personnes.
Un aveuglement et des défaillances. Exemple concret, l'audition de la réalisatrice Catherine Corsini. Violence verbale, gestes déplacés. En 2022, le tournage de son film Le Retour est chaotique. À cela s'ajoute une scène à caractère sexuel impliquant une actrice mineure non déclarée auprès de la commission des enfants du spectacle.
Je me suis dit, bon voilà, ils sont d'accord et ça les a fait marrer. Ils ont dit, bon, on y va, on l'a fait rapidement et puis ça s'est bien passé, quoi, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas dû le faire.
S'il y a un coach d'intimité, voilà. Ça simplifie tout, en fait.
À l'époque, moi, je n'avais pas encore à l'esprit que c'était dans les pratiques le coach d'intimité. C'est vrai, je pensais que l'intimité, c'est moi qui l'avais avec les acteurs et qui, voilà, j'ai voulu travailler de cette manière-là sur ce tournage.
Le coordinateur d'intimité, ce médiateur entre réalisateur et comédien qui encadre les scènes intimes. Un métier peu développé en France et pas obligatoire sur les plateaux. Alors, c'est l'une des priorités identifiées par la commission et sa présidente, Sandrine Rousseau.
Les coordinateurs d'intimité, c'est vraiment parmi les personnes qui manquent aujourd'hui dans les tournages. Il faut qu'on sache exactement ce qui va être tourné, ce qui va être monté, ce qu'on va retenir comme plan. Ça, c'est absolument indispensable.
Indispensable au point de figurer en bonne place dans le compte-rendu final de la commission, explique son rapporteur général, le député MoDem Erwan Balanant.
Il faut rendre systématique le fait que les coordinateurs d'intimité soient proposés et qu'ils soient obligatoires si l'un des deux protagonistes souhaite qu'il y ait un coordinateur d'intimité.
L'une des nombreuses propositions du rapport final publié début avril et qui débouchera peut-être sur une proposition de loi.
Et on reviendra sur le procès de l'acteur Gérard Depardieu pour agression sexuelle dans le journal de 7h temps universel.
RFI Matin.
Question d'environnement. Ce matin, on parle des manchots du Cap avec vous, Lucille Jambert. Bonjour.
Bonjour. Ce sont eux que vous entendez, ces oiseaux noirs et blancs, les seuls manchots africains. Ils ont un cri qui fait penser à celui de l'âne, vous l'entendiez. Et ils vivent uniquement sur les côtes de Namibie et d'Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, justement, la haute cour de Pretoria vient de valider un accord historique pour tenter de sauver cette espèce emblématique, car elle est au bord de l'extinction.
Oui, après plusieurs années de négociations et sous la pression d'une plainte en justice contre la ministre sud-africaine de l'Environnement, les défenseurs de la nature sont parvenus à arracher un accord extrajudiciaire avec les grands groupes de pêche industrielle. La pêche va donc être interdite pendant 10 ans autour de 6 zones de reproduction des manchots du Cap, notamment autour de Robben Island, l'île où Nelson Mandela avait été emprisonné.
Et la conclusion de 15 années de plaidoyer environnemental et de recherche scientifique.
Oui, en suivant par GPS les itinéraires de pêche des manchots et en expérimentant avec le gouvernement des zones de pêche et des zones interdites à la pêche pendant plusieurs années, les scientifiques ont montré que la principale cause de la disparition accélérée des manchots africains depuis les années 2000, c'est bien le manque de nourriture qui est lié à la surpêche industrielle des anchois et des sardines dont ils se nourrissent. Écoutez la biologiste marine Lauriane Pichegru depuis l'Afrique du Sud.
On parle de 500 000 de tonnes d'anchois qui sont capturés chaque année. On parle aussi d'à peu près 300 000 tonnes de sardines. Tous les anchois qui sont pêchés en Afrique du Sud, ils sont transformés en farine de poisson qui est la plupart exportée ensuite en Asie pour l'aquaculture. Donc, ce n'est pas pour nourrir des populations locales. Les sardines, c'est pareil. La quintière qui doit être consommée par les hommes, là, le reste est transformé en farine de poisson. Pour la plupart, pour nourrir du saumon et des gambas qui sont ensuite réexportés pour les populations riches.
Et en raison du changement climatique, les populations de sardines et d'anchois sont en difficulté. Il était donc urgent d'adapter la pression de la pêche sous peine de voir le manchot du Cap, source de revenus touristiques pour l'Afrique du Sud, s'éteindre en 2035.
Mais Lucille, est-ce que le manchot du Cap est sauvé pour autant?
Ces zones de pêche ne seront pas toutes protégées des pressions humaines. L'accord a été le fruit d'un compromis avec les industriels de la pêche. Le moratoire se concentre donc sur les zones où les oiseaux pêchent au moment le plus critique pour la survie des poussins. Mais la scientifique Lauriane Pichegru estime que cela va beaucoup aider l'espèce. Prochain combat pour les défenseurs de l'environnement et les défenseurs du manchot africain. Le ravitaillement en mazout de navire à navire en pleine mer, ces stations essence flottantes se sont très fortement développées dans la baie d'Algoa depuis 2016, causant 4 marées noires déjà et une augmentation de la pollution sonore sous-marine, ce qui menace là aussi les manchots.
Question d'environnement avec Lucille Jambert. 6h26 à Paris, 5h26 en temps universel. Dans quelques minutes, un nouveau journal d'actualité africaine. Avant, on fait un tour dans la playlist musicale de RFI. On écoute Camille Yembe avec son titre « Plastique ».
Est-ce que tu me passerais une cigarette ? Mais je peux le faire pour toi. C'est mal, j'irai sûrement en enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée. Ce soir, j'ai enfilé une peau en plastique pour éviter de tout casser encore. Une fois, j'ai enfilé une peau en plastique. Tu reconnais la silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui? Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire. Un jour les traits de mon visage seront-ils symétriques? J'ai rêve de vivre d'amour et de connaître moi. Ah, je vis la vie d'une autre, c'est dommage. Je rêve de vivre d'amour et de connaître moi. Ah, je vis la vie d'une autre fille, c'est dommage. Ah, j'ai enfilé une peau en plastique.
Et son titre Plastique, que vous retrouvez dans la playlist musicale de RFI. Dans un peu plus d'une minute, c'est le retour de l'actualité africaine.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
journée mondiale de lutte contre la tuberculose, plus de 10 millions de nouveaux cas chaque année.
Demain,
appendicite et péritonite, quelle différence, quel traitement?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Jeune Couty.
Young soul had a big dream stored away.
James BKS.
Well, to fly and become a man.
I'm on my way.
I'm on my way.
RFI Musique.